3.
La grève ? Aboya Gaspard. Quelle grève ?
Fataliste, le bagagiste haussa les épaules et eut un geste vague.
Bah, comme d'habitude, vous savez bien.
Pour se protéger des rafales de pluie, Gaspard mit sa main en visière. Bien entendu, il n'avait pas pensé à prendre un parapluie.
Donc il n'y a pas de taxi ?
Nada. Vous pouvez essayer le RER B, mais il n'y a qu'un train sur 3.
C'est ça, plutôt mourir. Et les bus ?
J'en sais rien,
grimaça l'employé en tirant une dernière bouffée de sa cigarette. Furieux, Gaspard retourna à l'intérieur du terminal. Dans un espace relais, il feuilleta le Parisien du jour. Le titre était éloquent. Le grand blocage. Chauffeurs de taxi, cheminots, employés de la RATP, contrôleurs aériens, hôtesses et stewards, routiers, dockers, postiers, éboueurs, tous s'étaient donné le mot et promettaient au gouvernement de paralyser le pays s'il ne retirait pas un texte de loi controversé. L'article précisait qu'on pouvait s'attendre à d'autres grèves et qu'à la suite du blocage des raffineries, il n'était pas impossible que le pays manque d'essence d'ici à quelques jours. Pour ne rien arranger, après un pic de pollution interminable au début du mois, c'était au tour de la Seine de connaître une crue historique. Il y avait des inondations partout autour de Paris, ce qui compliquait encore la circulation. Gaspard se frotta les paupières.
Toujours la même rengaine chaque fois que je mets les pieds dans ce pays.
Le cauchemar continuait, mais peu à peu, la lassitude prenait le pas sur la colère. Que faire ? S'il avait eu un portable, il aurait pu appeler Karen pour qu'elle trouve une solution. Sauf que Gaspard n'avait jamais voulu avoir de téléphone cellulaire. Tout comme il n'avait pas d'ordinateur, pas de tablette tactile, pas d'adresse de courrier électronique, et qu'il n'allait jamais sur Internet. Un peu naïvement, il se mit en quête d'une cabine téléphonique dans le hall de l'aérogare, mais elle semblait tout avoir disparu. Les bus restaient son dernier espoir. Il sortit et chercha en vain un agent pour se renseigner, mit un bon quart d'heure à comprendre les subtilités des différentes lignes des cars Air France et assista, dépité, au départ de deux bus bondés qui ne pouvaient pas prendre plus de passagers. Après une nouvelle demi-heure d'attente et alors que l'averse redoublait, il put enfin grimper dans l'un des véhicules. Pas une place assise, non, il ne fallait pas rêver, mais au moins il était sur la bonne ligne, celle qui desservait la gare Montparnasse. Serrés comme des sardines, dégoulinant de pluie, les passagers s'étaient résignés à boire le calice jusqu'à la lie. Pressant son sac contre lui, Gaspard songea à la définition de l'homme par Dostoïevski. Un être qui s'habitue à tout. À se faire écraser les pieds, à être bousculé, à ce qu'on lui éternue au visage, à transpirer avec des inconnus dans un étouffoir, à partager une barre métallique pleine de microbes. De nouveau, il eut la tentation de renoncer et de quitter la France, mais il se réconforta en se disant que son calvaire ne durerait pas plus d'un mois. S'il arrivait à boucler l'écriture de sa pièce dans les temps, dans moins de 5 semaines, il repartirait passer la fin de l'hiver et le début du printemps en Grèce, où il possédait un voilier amarré sur l'île de Syphnos. S'ensuivraient alors 6 mois de navigation dans les Cyclades, à vivre en osmose avec les éléments dans une explosion de sensations et de couleurs. Le blanc aveuglant du soleil sur la chaux, le bleu cobalt du ciel, la profondeur turquoise de la mer Égée. En Grèce, Gaspard faisait corps avec le paysage, les végétaux et les parfums, dans une sorte de fusion panthéiste. Après s'être enivré de l'air marin, il se fondait dans la garrigue, longeait les murs de pierre sèche, se délectait des odeurs de thym, de sauge, d'huile d'olive et de poulpe grillée. Un bonheur qui durait jusqu'à la mi-juin. Quand les touristes commençaient à gangréner les îles, il s'enfuyait sur le territoire américain, dans son chalet du Montana. Là, c'était un autre mode de vie, un retour à la nature dans ce qu'elle avait de plus sauvage et de plus rude. Ses journées étaient rythmées par des parties de pêche à la truite, des vagabondages sans fin dans les forêts de bouleaux, autour des lacs, le long des rivières et des ruisseaux. Une existence solitaire mais intense, loin du cancer des villes et de leurs habitants anémiques. Mètre après mètre, le bus se traînait sur l'autoroute A3. À travers ses vitres embuées, Gaspard apercevait parfois des fragments de panneaux égrenant les villes de la banlieue nord-est, Aulnay-sous-Bois, Drancy, Livry-Gargan, Bobigny, Bondy. Il avait besoin de ces longues immersions, seul, dans la nature, pour se purifier, pour se laver du chancre de la civilisation. Car depuis longtemps, Gaspard Coutances était en guerre contre l'agitation et le chaos d'un monde qui courait à sa perte. Un monde qui craquait de tous les côtés et qu'il ne comprenait plus. En bon misanthrope, il se sentait plus proche des ours, des rapaces et des serpents que de ses soi-disant frères humains. Et il était fier d'avoir fait sécession avec un monde qu'il détestait. Fier de pouvoir vivre la plupart du temps en dehors de la société et de ses règles. Ainsi, il n'avait plus allumé un écran de télévision depuis 25 ans. Ignorait presque tout d'Internet et roulait dans un Dodge de la fin des années 1970. Sa vie d'ermite procédait d'un ascétisme décidé, mais pas radical. Il s'autorisait parfois une incartade lorsque l'occasion se présentait. Il lui arrivait de quitter ses montagnes ou son repère de Grèce et de prendre un avion pour assister à un concert de Keith Jarrett à Jouan-les-Pins, à une rétrospective de Bruegel à Rotterdam ou à une représentation de la Tosca dans les arènes de Vérone. Et puis, il y avait ce fameux mois d'écriture, à Paris. Après avoir mûri sa pièce de théâtre dans sa tête pendant un an, il se mettait à son bureau, 16 heures par jour. Chaque fois, il pensait être à court d'idées, d'inspiration, d'envie, mais chaque fois, un processus mystérieux se mettait en branle. Les mots, les situations, les dialogues et les répliques jaillissaient sous sa plume et s'articulaient en un tout cohérent au fil d'une écriture sèche et sans pathos. Ses pièces étaient aujourd'hui traduites dans près de 20 langues et jouées dans le monde entier. Rien que l'année dernière, près d'une quinzaine de productions s'étaient montées en Europe et aux États-Unis. L'une de ses dernières pièces, Ghost Town, avait été créée à la Schaubühne, le mythique théâtre de Berlin, et elle avait été nommée aux Tony Awards. Ses histoires plaisaient surtout à la presse intello qui surinterprétait et surestimait quelque peu son travail. Gaspard n'assistait jamais à la représentation de ses pièces, ni ne donnait d'interview. Au début, Karen s'était inquiétée de ce choix de ne pas apparaître dans les médias, mais elle avait su tirer parti de cette réserve pour créer un mystère Gaspard Coutances. Finalement, moins il mouillait la chemise, plus la presse le couvrait d'éloges. On le comparait à Kundera, à Pinter, à Schopenhauer, à Kierkegaard. Gaspard n'était pas flatté par ses compliments tant il avait toujours pensé que ce succès procédait d'un malentendu. Après Bagnolet, le bus s'éternisa sur le périph' avant de prendre les quais de Bercy jusqu'à la gare de Lyon. Là, le car marqua un arrêt interminable, le temps de débarquer la moitié de ses passagers avant de mettre le cap vers l'ouest. Les pièces de théâtre de Gaspard baignaient toutes dans le même terreau, celui de l'absurdité et du tragique de la vie. Celui de la solitude consubstantielle à la condition humaine. Elle distillait la détestation de Gaspard pour la folie de son époque et était vierge d'illusions, d'optimisme, de bons sentiments et de tout happy end. Mais toutes désespérées et cruelles qu'elles étaient, ces pièces étaient drôles. Certes, ce n'était pas à Pouic-Pouic, la cage aux folles ou au théâtre ce soir, mais c'était des pièces vives et dynamiques. Comme disait Karen, elle donnait aux spectateurs l'impression qu'ils pouvaient être libres et aux critiques celle qu'ils étaient intelligents. C'était peut-être ce qui expliquait l'engouement du public et des comédiens les plus en vue qui se battaient pour interpréter ces textes grinçants. On venait de traverser la Seine. Boulevard Arago, des décorations de Noël tristes et déplumées rappelèrent à Gaspard combien il détestait cette période et ce que cette fête était devenue. Un simple dégueulis commercial et vulgaire. Puis le car s'immobilisa place d'Enfer Rochereau, juste devant l'entrée des catacombes. Autour du Lion de Belfort, un petit groupe de manifestants agitait des drapeaux aux couleurs de la CGT, de FO et de la FSU. Le chauffeur baissa sa vitre pour parler à un flic en train de réguler la circulation. En tendant l'oreille, Gaspard comprit que l'avenue du Maine était bloquée, ainsi que tous les accès à la tour Montparnasse. Les portes du car s'ouvrirent dans un bruit de ventouse.
Terminus, tout le monde descend,
annonça le chauffeur d'un ton amusé, alors qu'il abandonnait pourtant ses passagers à un triste sort. Dehors, l'orage redoublait. 4. En raison de la grève et du blocage des sites de traitement des déchets, Paris croulait sous les ordures. Des montagnes d'immondices s'accumulaient devant les restaurants, les entrées d'immeubles et les devantures de magasins. Dépités, partagés entre le dégoût et la colère, certains touristes faisaient même des selfies ironiques devant les conteneurs débordant de détritus. Sous la pluie battante, Madeleine remontait la rue de Grenelle, tirant sa valise à roulettes qui semblait peser 1 kilo supplémentaire tous les 100 mètres. Le cœur vaillant, elle avait décidé de ne pas se laisser abattre. Pour se donner du courage, elle élaborait dans sa tête son programme des prochains jours. Des balades sur l'île Saint-Louis, une comédie musicale au Châtelet, une pièce de théâtre à Édouard VII, l'expo Hergé au Grand Palais, Manchester by the Sea au cinéma et quelques petits restos en solo. Elle avait besoin que ce séjour se passe bien. Elle était venue ici en espérant se reposer et se retrouver. Elle prêtait à la ville ce type de vertu magique. Elle continua son chemin en s'efforçant de ne pas penser à l'intervention médicale qu'elle devait subir dans les prochains jours. Alors qu'elle venait de dépasser la rue de Bourgogne, la pluie cessa brusquement. Quand elle arriva rue du Cherche-Midi, un rayon de soleil timide fit même son apparition et lui rendit le sourire. Elle fouilla dans son smartphone pour ouvrir le mail de la plateforme de location sur laquelle elle avait choisi la maison. Un appartement à Paris. Un mois plus tôt, c'est cette requête qu'elle avait entrée dans un moteur de recherche lorsqu'elle avait entrepris ses démarches pour trouver un logement. Après quelques dizaines de clics et une demi-heure de navigation, elle avait atterri sur le site d'une agence immobilière spécialisée dans la location de biens atypiques. La maison dépassait de très loin son budget, mais elle lui avait tapé dans l'œil au point qu'elle n'envisage pas d'habiter ailleurs. De peur qu'elle lui passe sous le nez, Madeleine avait sorti immédiatement sa carte de crédit pour valider sa réservation. Dans le message de confirmation figurait à la fois l'adresse précise du logement et la batterie de code pour y accéder. D'après les indications, la bâtisse s'élevait dans l'allée Jeanne-et-Buterne, un cul-de-sac barré par un portillon de fer situé juste en face du restaurant Chez Dumonnet. Madeleine repéra le portail à la peinture écaillée et, l'œil rivé à l'écran de son téléphone, composa les 4 chiffres qui permettaient de le déverrouiller. Dès qu'elle eut refermé derrière elle, Madeleine fut projetée dans un sanctuaire hors du temps. Elle fut d'abord sensible à la verdure. Chèvrefeuille, bambou, massif de jasmin, magnolia, et aux arbustes, orangers du Mexique, andromède du Japon, boudléa de David, qui faisaient de l'endroit un écrin bucolique et champêtre à 1000 lieues de la rugosité de la ville. Puis, en avançant sur les pavés, elle découvrit un groupe de 4 maisonnettes, des pavillons à 1 étage entourés d'un potager dont les façades disparaissaient sous le lierre et la passiflore. La dernière maison de l'impasse était celle qu'elle avait louée. Elle n'avait rien à voir avec les autres. De l'extérieur, c'était un cube en béton armé souligné d'un damier de briques rouge et noir. Madeleine composa un nouveau code pour ouvrir la grande porte pleine en acier, surmontée d'une inscription déliée en fer forgé. « Cursum perficio. Ici s'achève mon chemin. » Dès qu'elle pénétra dans l'entrée, quelque chose se produisit, une sorte d'émerveillement pas très loin du coup de foudre, un éblouissement qui la toucha en plein cœur. D'où venait ce sentiment d'être chez soi, cette impression d'harmonie indéfinissable? De l'agencement des volumes, des reflets ocre de la lumière naturelle, du contraste avec le chaos qui régnait dehors? Madeleine avait toujours été sensible aux intérieurs. Pendant longtemps, c'était même une composante de son métier, faire parler les lieux. Mais les lieux auxquels elle avait affaire alors avaient la particularité d'être des scènes de crime. Elle posa sa valise dans un coin du hall et prit le temps de parcourir toutes les pièces. Cursum Perficio était une maison-atelier des années 1920, parfaitement restaurée, qui se déployait sur 3 niveaux autour d'un patio végétalisé. Au rez-de-chaussée, une cuisine ouvrait sur une salle à manger et un grand salon dépouillé. En descendant un escalier en bois brut, on atterrissait sur un plateau en rez-de-jardin, partagé en 2 chambres, qui donnait sur une fontaine entourée de plantes grimpantes. Quant au premier étage, il était entièrement occupé par un immense atelier, une chambre et sa salle de bain. Sous le charme, Madeleine demeura plusieurs minutes dans l'atelier, impressionnée par les hautes baies menuisées de plus de 4 mètres qui ouvraient sur le ciel et la cime des arbres. Dans le descriptif fourni par le site de location, elle avait lu que la maison avait appartenu au peintre Sean Lawrence. De fait, l'atelier semblait tel que l'artiste l'avait laissé, avec son sol constellé de taches vives, ses chevalets et des châssis de toutes les tailles, ses toiles vierges rangées dans des casiers, et partout, des pots de couleurs, des brosses, des pinceaux, des bombes de peinture. Elle eut du mal à quitter l'atelier. C'était grisant et troublant d'évoluer dans l'intimité du peintre. De retour dans le salon, elle ouvrit la porte vitrée qui donnait accès à la terrasse. Là, elle fut saisie par les parfums enivrants des fleurs qui montaient du patio et, le sourire aux lèvres, contempla deux rouges-gorges qui pirouettaient près d'une mangeoire fixée au mur. On était plus à la campagne qu'à Paris. Voilà ce qu'elle allait faire. Prendre un bain, puis s'installer sur la terrasse avec une tasse de thé et un bon livre. Cette maison lui avait fait retrouver le sourire. Elle avait eu raison de suivre son instinct et de venir ici. Paris était vraiment la ville dans laquelle tout pouvait arriver. 5. Maudissant l'averse, Gaspard sautait d'un trottoir à l'autre, sa veste tendue au-dessus de sa tête, son sac lui cisaillant l'épaule. Parti de Denfert, il cavala jusqu'à la station de métro Edgar Quinet sans marquer d'arrêt. En s'engageant dans la rue de l'Ambre, il se retrouva en terrain connu. 2 ans auparavant, Karen lui avait loué un grand appartement à l'angle du square de l'Ambre. Il se souvenait bien de la rue, la petite école, l'hôtel Lennox, le jardin extraordinaire avec sa devanture fleurie ainsi que les restaurants où il lui arrivait de prendre ses repas, le sushi Gozen et le bistrot du Dôme. La pluie cessa enfin lorsqu'il arriva boulevard du Montparnasse. Gaspard en profita pour remettre sa veste et essuyer ses lunettes. Une clameur rauque et confuse montait de la rue. Pétards, cornes de brume, sifflets, sirènes, slogans hostiles au gouvernement. L'artère débordait de manifestants. Un cortège fourni qui attendait de s'élancer rue de Rennes. Gaspard reconnut les gilets jaunes fluo et les chasubles rouges de la CGT massés autour d'un ballon montgolfière gonflable et d'une sono qui chauffait une foule pressée de battre le pavé. Le dramaturge plongea dans la vague de drapeaux et de banderoles pour rejoindre en apnée le boulevard Raspail. Soulagé de retrouver un peu de calme, il reprit son souffle, appuyé contre un lampadaire. Là, en sueur, il sortit de sa poche la feuille que lui avait envoyée Karen et relut l'adresse de la maison et les instructions pour y accéder. Il reprit sa route alors que de timides rayons de soleil faisaient miroiter le trottoir. À l'angle de la rue du Cherche-Midi, la devanture d'un caviste égaya son humeur. Le rouge et le noir. Il vérifia que le magasin était vide avant d'y entrer. Sachant exactement ce qu'il voulait, il abrégea la conversation avec le propriétaire et repartit 10 minutes plus tard, chargé d'une caisse de grands crus. Gevrey-Chambertin, Chambol-Musigny, Saint-Estèphe, Margaux, Saint-Julien. L'alcool. En croisant son reflet dans les vitrines, il songea brièvement à la scène terrible au début du film Leaving Las Vegas, lorsque le personnage joué par Nicolas Cage s'arrête dans un liquor store pour remplir un caddie de dizaines de bouteilles d'alcool. Une halte prélude à une descente aux enfers suicidaire. Certes, Gaspard n'en était pas encore là, mais l'alcool faisait partie intégrante de son quotidien. S'il buvait seul la plupart du temps, il lui arrivait aussi de prendre des cuites mémorables dans des assommoirs de Columbia Falls, de Whitefish ou de Sifnos. Des bitures violentes, avec des gars frustes qui se foutaient pas mal de Bruegel, de Schopenhauer, de Milan Kundera ou de Harold Pinter. C'était l'adjuvant le plus commode pour colmater ses lignes de faille et rendre sa vie moins tragique. Le complice qui l'aidait à voler quelques fragments d'insouciance à l'existence. Tantôt ami, tantôt ennemi, L'alcool était le bouclier qui tenait les émotions à distance, la cotte de maille qui le protégeait des angoisses, le meilleur des somnifères. Il se rappela la phrase d'Hemingway : un homme intelligent est parfois forcé de boire pour pouvoir passer du temps parmi les imbéciles. Voilà, c'était ça. L'alcool ne résolvait fondamentalement aucun problème, mais il offrait un moyen transitoire de supporter la grande alliance de la médiocrité qui, d'après lui, avait contaminé l'humanité. Gaspard était lucide. Il savait qu'il n'était pas impossible que l'alcool gagne à la fin. Il avait même une idée assez précise de la façon dont ça pourrait se passer. Viendrait un jour où la vie lui semblerait à ce point intolérable qu'il ne pourrait plus l'affronter à jeun. L'image de son propre cadavre en train de s'enfoncer dans des abysses alcoolisés lui traversa l'esprit. Il s'empressa de chasser ce cauchemar et s'aperçut qu'il était arrivé devant un portail recouvert d'une couche de peinture bleue de Prusse. Calant la caisse de vin sous un bras, Gaspard composa les quatre chiffres du digicode qui protégeait l'entrée de l'allée Jeanne et Buterne. Dès qu'il s'engagea dans la petite impasse, quelque chose se détendit en lui. Pendant un long moment, il resta incrédule en découvrant la végétation et l'allure provinciale, quasi surannée, du passage arboré. Ici, le temps donnait l'impression de s'égrener plus lentement qu'ailleurs, comme si le lieu était traversé par un fuseau horaire parallèle. Deux chats débonnaires se doraient au soleil, des oiseaux piaillaient dans les branches des cerisiers, le chaos du dehors paraissait tout à coup très loin, et on avait du mal à croire qu'on était à quelques centaines de mètres de l'affreuse tour Montparnasse. Gaspard fit quelques pas sur les pavés irréguliers. Un peu en retrait, presque dissimulé par les arbustes, on devinait de petites maisons en pierre meulière et leurs murs crépis. Derrière des portails rouillés, leurs façades ocre étaient mangées par le lierre et la vigne vierge. Enfin, au bout de l'allée, s'élevait une construction audacieuse, aux formes géométriques. Un parallélépipède en béton armé, ceint d'une large bande vitrée opalescente, qui courait le long d'une façade en briques noires et rouges, disposée en damier. Au-dessus de la porte, une inscription en fer forgé. Cursum Perficio, le nom de la dernière maison de Marilyn Monroe. Un digicode invitait à saisir de nouveaux chiffres. Gaspard suivit les instructions de Karen et la porte en acier se déverrouilla dans un léger clic. Curieux de découvrir l'intérieur, Gaspard dépassa le hall d'entrée pour déboucher directement dans le salon. Ce n'était pas aussi bien que sur les photos. C'était mieux. La maison s'organisait de façon ingénieuse autour d'un patio rectangulaire agrémenté d'une terrasse en forme de L. Merde alors, souffla-t-il entre ses dents, bluffé par l'élégance du lieu. Toute la tension qu'il avait accumulée ces dernières heures se dissipa. On était ici dans une autre dimension, un espace à la fois familier et réconfortant, fonctionnel, accueillant et épuré. Il essaya un moment d'analyser l'origine de ce sentiment, mais ni l'architecture ni l'harmonie des proportions n'étaient une grammaire dont il connaissait les règles. D'ordinaire, il n'était pas sensible aux intérieurs. Il était sensible aux paysages, aux reflets des montagnes enneigées sur la surface des lacs, à la blancheur bleutée des glaciers, à l'immensité enivrante des forêts de sapins. Il ne croyait pas à ce baratin autour du feng shui et à l'influence de l'ameublement sur la circulation de l'énergie dans une pièce. Mais force était de constater qu'il ressentait ici, sinon de bonnes ondes, du moins la certitude qu'il y serait bien et qu'il allait y travailler avec plaisir. Il ouvrit la baie vitrée, sortit sur la terrasse et s'appuya contre la balustrade, profitant pleinement du chant des oiseaux et de cette atmosphère champêtre qui le réjouissait. Le vent s'était levé, mais il faisait bon et le soleil éclaboussait son visage. Pour la première fois depuis longtemps, Gaspard sourit. Pour fêter son arrivée, il allait ouvrir une bouteille de Gevrey Chambertin et se servir un verre, qu'il dégusterait tranquillement en... Un bruit le tira de sa béatitude. Il y avait quelqu'un dans la maison. Peut-être une femme de ménage ou un homme d'entretien. Il retourna à l'intérieur pour s'en assurer. C'est là qu'il aperçut une femme qui lui faisait face, entièrement nue, à l'exception d'une serviette de bain qui entourait sa poitrine et descendait jusqu'à ses cuisses.
« Qui êtes-vous ? Et que faites-vous chez moi ? »
demanda-t-il. Elle le regardait avec colère.
« C'est exactement la question que j'allais vous poser !»
répondit-elle.